RFI, 6h44, en temps universel.
RFI, toute l'actualité, Julien Coquel-Rohem.
Et à la une de l'info ce matin, une quatrième nuit de mobilisation en soutien au maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, arrêté mercredi et qui a comparu hier devant un tribunal. Pour la première fois, il rejette les accusations de corruption et de soutien au terrorisme. Des milliers de personnes ont manifesté hier soir devant la mairie et le palais de justice d'Istanbul. La police a tiré des gaz lacrymogènes alors qu'elle avait déjà interpellé plus de 300 manifestants dans la nuit de vendredi à samedi. La colère aussi en Israël, en plein bras de fer, autour du limogeage par le gouvernement du chef du Shin Bet, les renseignements intérieurs. La Cour suprême a suspendu son éviction et le gouvernement persiste et signe en examinant aujourd'hui un projet de destitution, cette fois de la procureure de l'État. Le chef de l'opposition, Yair Lapid, appelle à une grève générale si Benjamin Netanyahou refuse de respecter l'avis de la Cour. Israël qui mène de nouveau des raids meurtriers au Liban, 8 morts hier dans 2 vagues de bombardements en représailles à des tirs de roquettes. Le Hezbollah dément en être l'auteur. La France condamne ces tirs tout en appelant Israël à la retenue. Et puis des nouvelles rassurantes du pape François plus d'un mois après son hospitalisation pour une pneumonie bilatérale et ses complications qui ont mis sa vie en danger. Le souverain catholique va pouvoir retrouver sa résidence et même faire une brève apparition publique ce dimanche. Pour la première fois depuis la mi-février, les médecins lui prescrivent une convalescence de 2 mois. Et la suite d'RFI Matin, c'est une histoire qui va vous en rappeler une autre.
Et ce jour-là, sans raison particulière, je décidais d'aller courir un peu. Alors j'ai couru jusqu'au bout de la route. Et une fois arrivé là, je me suis dit que je pourrais courir jusqu'au bout de la ville. Puis sans raison particulière, j'ai continué à courir. J'ai couru droit vers l'océan.
La voix de Forrest Gump, le personnage mythique du film éponyme, est tout aussi légendaire, sorti en 1994. Parmi les nombreuses aventures qu'il raconte, assis à un arrêt de bus, il y a cette course commencée par hasard un jour et qui lui fait traverser tous les États-Unis, un moment du film resté célèbre et qui a inspiré un Chilien, Antonio Marshall, marathonien de 41 ans, qui court depuis quelques années, habillé exactement comme le personnage de Tom Hanks, même vêtements, même cheveux, même barbe. Et même comme dans le film, des compagnons de route désormais qui courent avec lui, inspirés aussi par son message de tolérance. Naila de Rouanet.
Tout commence pendant la pandémie de Covid. En télétravail chez lui, Antonio Marshall se laisse pousser la barbe et les cheveux. Un jour, alors qu'il fait son footing, un passant lui fait remarquer sa ressemblance avec ce célèbre personnage de film qui court sans s'arrêter.
Quand ils ont annoncé le retour du marathon de Santiago, j'ai repensé à ce que m'a dit ce monsieur et j'ai eu l'idée de faire la course déguisée en Forrest.
En quelques clics, Antonio achète la casquette Booba Gump, le t-shirt jaune, le short rouge ainsi que les baskets blanches. Après quelques hésitations, il sort finalement inaugurer son costume avec sa grande touffe de cheveux et sa longue barbe.
Dès les premiers mètres, une publication Twitter disait que Tom Hanks était au Chili et ça s'est viralisé.
Antonio a même appris certaines répliques du film par cœur et il a adopté la façon de courir de Forrest Gump.
L'idée, c'est de représenter le personnage de la manière la plus authentique possible pour que les gens, même 30 ans après la sortie du film, sentent la présence de Forrest Gump, qu'il est toujours d'actualité.
Mais au-delà du déguisement, il s'identifie lui-même à Forrest Gump, ce personnage souvent moqué à cause de son autisme. Antonio, lui, était un enfant timide.
Ça a été très dur au primaire, entre 8 et 12 ans. On me donnait de méchants surnoms. Alors je jouais seul. Quand les gens ne connaissent pas la vie des autres, ils inventent.
Depuis qu'Antonio incarne Forrest, il a acquis de la visibilité sur les réseaux sociaux. Il en profite alors pour faire passer des messages contre le harcèlement et sensibiliser à l'autisme.
Je crois que la normalité, c'est d'être différent. Donc à partir de là, il faut tolérer et respecter les différences, les valoriser. Chaque différence, chaque individualité a un potentiel.
Lors de sa dernière course de l'année à Santiago, plus de 80 personnes ont couru à ses côtés, certains avec des bonnets de Noël, d'autres des chapeaux de lutin.
On aime la cause qu'il défend, donc on a décidé de l'accompagner aujourd'hui.
Je vais là où se trouve Forrest.
Vous venez de l'appeler Forrest.
Oui, c'est sous ce nom qu'on le connaît. J'ai adoré le film. Et quand j'ai vu Antonio, j'ai dit « Waouh !» Donc à chaque fois qu'il participe à une course, on y va.
Il est iconique, il s'habille comme lui. On a envie de le suivre.
On a des proches qui sont atteints d'autisme, avec différents types de handicap. C'est pour ça qu'on est là.
La course commence et une participante crie « Cours, Forest, cours !» Naïla Drouané, Santiago, RFI.
Le Forrest Gump chilien Antonio Marshall dans notre reportage international. Et elle nous présente ses têtes d'affiche comme chaque dimanche sur RFI. Denise Epoté de TV5 Monde est au téléphone de Simon Bourtembourg.
Bonjour Denise.
Bonjour Simon.
Aujourd'hui, c'est un duo béninois qui occupe la première place de votre podium. Lucien Medjiko possède un bachelor en sécurité informatique et une spécialisation en cybersécurité obtenue à l'université Abomey-Calavi. Son compère est lui ingénieur agronome, Ulrich Didot. Il prépare une thèse en agroécologie. Il est de son côté spécialiste des chaînes de valeur de l'ananas, du riz et des cultures maraîchères. Eh bien Denise, à eux deux, ils ont donc créé BioLife Tech, et ce pour accompagner les petits agriculteurs.
Nourris par leurs histoires familiales, c'est en 2020, sur les bancs de l'université, que naît l'aventure BioLife Tech pour Ulrich Didot et Lucien Medjiko. Les deux amis décident alors de concevoir une solution technologique pour faciliter l'accès des petits agriculteurs de fruits et légumes au marché d'exportation, améliorer leurs revenus et surtout réduire les pertes post-récolte. E-Pine A est le nom de la plateforme car le produit phare est l'ananas, le fameux pain de sucre qui, à l'international, a acquis ses 5 étoiles. Une fois inscrit sur la plateforme et après avoir sélectionné le marché qui l'intéresse, l'agriculteur obtient un itinéraire personnalisé qui lui permet de répondre aux exigences des acheteurs locaux et internationaux. Le respect des bonnes pratiques a permis aux 1800 agriculteurs inscrits d'augmenter leurs revenus de 20%. Aux acheteurs, E-Pine A garantit la traçabilité de la production et la disponibilité des stocks pour mieux planifier les commandes. Plusieurs fois primé pour cette innovation qui renforce la compétitivité et stimule le développement économique en créant des emplois locaux, Ulrich Didot et Lucien Medjiko ont été lauréats de l'hackathon AgriHack organisé par l'International Trade Center.
Et votre seconde tête d'affiche, Denise, est originaire du Congo-Brazzaville. Vital Zaka, un inventeur et chimiste reconnu. Son pseudonyme, son surnom, Vital Vitium, c'est aussi le nom de l'innovation qu'il a mise au point. Le chimiste congolais mène des recherches dans le domaine des énergies renouvelables, un domaine, Denise, qui est selon lui essentiel pour lutter contre le réchauffement climatique.
Atteindre une neutralité carbone ambitieuse, comme il l'a défini, c'est l'objectif que vise Vital Vitium, qui depuis le primaire est passionné par les expériences scientifiques, menées à partir de plantes, car elles sont, affirme-t-il, une source d'énergie depuis la nuit des temps. Son fruit fétiche est le citron, qui contient plusieurs composés chimiques. Le vitium qu'il extrait, placé sous les racines d'un arbre ou d'une plante, produit du courant continu, converti ensuite par un transformateur en courant alternatif de 220 volts. La pile manioc, nommée pile biologique, solution peu coûteuse, pourrait également fournir de l'énergie à plusieurs ménages. Pour l'heure, grâce au PNUD, 3 maisons test sont alimentées par cette énergie verte. Avec le concours du ministère congolais de l'énergie, 400 maisons dans le village de Dimoneka devraient bénéficier de cette technologie respectueuse de l'environnement et de la santé. En 2021, la pile a été brevetée au Grand-Duché du Luxembourg. Si les recherches de Vital Vitium suscitent l'intérêt de plusieurs pays, pour l'heure, ils peinent à les financer pour les rendre accessibles. À l'horizon 2030, il espère que les énergies renouvelables dans son Congo natal représenteront 35% de la consommation brute en énergie.
Denise Epoté de TV5 Monde avec Simon Bourtembourg. Et une dernière étape ce matin à Berberati, troisième et dernier volet de notre série de reportages dans la troisième ville de Centrafrique, dans le sud-ouest du pays, avec aujourd'hui un lieu emblématique où se retrouvent les habitants depuis des décennies, la Batouri, rivière toute proche que les locaux appellent affectueusement leur plage, un lieu où l'on vient se divertir, nager, danser, écouter de la musique et faire de nouvelles rencontres. La carte postale est signée Rolf Steff Domialeux.
La Batori, une rivière nichée au pied de deux collines à l'entrée de Berberati. Avec ses eaux grises, son sable doré et sa végétation verdoyante, elle offre des expériences inoubliables. Le spectacle est à couper le souffle depuis le pont métallique qui permet le passage des véhicules. Kelly Mermoz aime regarder l'eau qui coule.
La Batori est toujours calme et resplendissante. Son paysage qui est si naturel me donne toujours l'envie d'y plonger. C'est un véritable trésor pour se détendre après une semaine remplie d'activités. J'aime sa tranquillité, j'ai l'impression que ça améliore ma vie.
Entourée de rochers, de palmiers et d'une forêt dense, cette rivière fait partie de la culture et de l'histoire de Berberati. Âgée d'une cinquantaine d'années, Saturnin y pratique la pêche depuis de nombreuses années.
La pêche est rentable dans l'autre partie de la rivière. Comme vous voyez, elle n'est pas polluée. Les clients achètent nos poissons et les font griller sur place pour les manger. J'adore cette ambiance qui me permet de gagner de l'argent.
Dans une ambiance très conviviale, certains sont allongés sur des nattes, d'autres assis sur des bancs ou des rochers. Carole passe la journée avec ses amis en sirotant le vin de palme appelé Kangoya.
La visite de Batori est toujours une expérience mémorable. Pour moi. Je vais continuer à siroter mon vin de palme sans regarder la montre. Cette rivière offre toujours des couchers de soleil magnifiques, ce qui vaut vraiment la peine de rester jusqu'à la fin de la journée pour finir en beauté.
Certaines allées sont créées entre les rochers pour descendre vers la rivière, d'autres pour remonter vers les lieux de commerce et l'aire de jeu. Après une semaine bien chargée, Ludovic a emmené ses deux filles, Sofia et Katia, pour se détendre.
Je me suis déjà baigné, donc je profite de la sérénité environnante, en observant les oiseaux et en respirant l'air pur. Le doux bruit de la nature berce nos pensées. Mes enfants aiment cette ambiance pour être en contact direct avec la nature et pour s'amuser.
Depuis plusieurs décennies, Batori est une destination de choix pour ceux en quête d'évasion et de souvenirs inoubliables. Rolf Steff Domialeux, de retour de Berberati, RFI.
Et à Berberati comme à Bangui, il est bientôt 8h. Les 3 épisodes de notre série de reportages sur place sont à retrouver sur RFI.fr. Bientôt 7h en temps universel et une parenthèse dans l'actualité avant le prochain journal. Vous retrouvez comme chaque dimanche 100% création à la rencontre aujourd'hui d'une maroquinière tournée vers l'éco-responsabilité. Alors qu'à l'échelle mondiale, la production de cuir est à l'origine de pollution de l'air et de l'eau, la française Anaïs Lefebvre s'est lancée dans la production de pièces uniques ou en petite série, notamment des sacs avec des chutes de cuir, des matériaux récupérés et revalorisés avec un savoir-faire artisanal, Maria Afonso.
Je pourrais pas du tout faire tout le temps la même chose ou faire ce qu'on me demande de faire sans avoir ma part de créativité.
Anaïs Lefebvre, maroquinière.
Ça a commencé avec les surnoms de mes enfants, Malout et Zazouille, et donc MZ Création.
Née dans les Yvelines, en Île-de-France, Anaïs Lefebvre a grandi dans un environnement artistique avec un père architecte et un grand-père artiste peintre. Elle s'oriente vers un baccalauréat littéraire, option art, puis des études de graphisme avant d'intégrer les beaux-arts. Après son diplôme, elle travaille dans la restauration d'œuvres d'art pour des musées, galeries, ainsi qu'une grande maison de luxe. En 2011, sa passion pour le cuir l'amène à fonder sa propre marque, MZ Création, à la démarche éthique. Anaïs Lefebvre utilise des matériaux provenant d'une association qui récupère et valorise les rebuts des maisons de maroquinerie de luxe afin de soutenir une approche durable.
La Réserve des Arts est une association qui collecte les chutes de plein d'entreprises différentes, et notamment dans le cuir. Je travaille avec des mégisseries qui récupèrent eux-mêmes des fins de série de tanneries qui n'ont pas été vendues et qui ont donc une grande diversité de peaux. J'attache beaucoup d'importance à avoir du cuir qui vienne de France ou d'Europe, plutôt France-Italie.
Dans un souci de respect des matières et au-delà de ses créations, la maroquinière propose des restaurations-réparations.
Le fait de restaurer, de réparer, je trouve ça intéressant parce que les gens ont des pièces auxquelles ils tiennent beaucoup. Et moi, je vais leur redonner une seconde vie. Ça me demande une gymnastique intellectuelle complètement différente que la création. Ça me stimule. Je fais de la fabrication et j'optimise au maximum ma matière première. Donc je vais utiliser la moindre chute pour faire un bijou, une ceinture, un accessoire. Je fais de la formation et je vends des journées où les gens viennent fabriquer leurs propres sacs. La formation professionnelle où les gens viennent se former chez moi. Les trois grandes lignes me plaisent et font que je suis accomplie.
Aujourd'hui, Anaïs Lefèvre aspire à transmettre sa passion et son approche éco-responsable dans la maroquinerie afin de sensibiliser et d'inspirer la prochaine génération d'artisans.
Je fais déjà des interventions auprès de jeunes publics pour sensibiliser au métier d'art. J'aimerais beaucoup travailler avec des étudiants. Je trouve que c'est intéressant pour eux de voir qu'il n'y a pas trop de limites et de leur montrer que ces métiers-là existent encore.
Retrouvez l'univers de MZ Création sur RFI.fr, chronique 100% création, et en podcast sur RFI Pure Radio.
Maria Afonso pour 100% création et bienvenue sur RFI. Si vous nous rejoignez, le journal dans une minute.
Découvrez l'exposition Paris Noir au Centre Pompidou à Paris. Paris Noir met en lumière 150 artistes africains, caribéens et africains-américains qui ont fait de Paris un foyer de création et d'engagement, de liberté et de résistance des années 50 aux années 2000. Ils sont célébrés pour la première fois en France. Paris Noir, circulation artistique et lutte anticoloniale jusqu'au 30 juin au Centre Pompidou à Paris. Plus d'informations sur centrepompidou.fr. En partenariat avec France Média Monde.
Musique du monde, Laurence Alloire.
Lisa Ducasse est l'invitée de la session live pour la sortie de l'album Iléisme. La poétesse et chanteuse mauricienne a trouvé dans la langue française l'écrin idéal pour raconter ses intimités. Elle chante en français, mais en ramenant la créolité dans sa musique et dans son phrasé. Iléisme évoque à la fois les gens qui parlent d'eux à la troisième personne et l'exil aux îles et ses archipels.
Musique du monde, Laurence Alloire.
Tout à l'heure, à partir de 20h10.
RFI.